BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission l'association de la semaine. Et aujourd'hui, je reçois Aude Amarurtu, directrice de Défi Service Plus. Aude Amarurtu, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par une présentation globale de Défi Service Plus. Quelle est sa mission ?
Défi Service Plus est une association qui intervient sur l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi. Notre rôle est de les accompagner pour les aider à trouver un emploi pérenne, c'est-à-dire un CDD de plus de 6 mois, un CDI ou une formation qualifiante diplômante dans un métier qui recrute.
Est-ce que vous avez quelques chiffres, notamment sur l'historique ?
Oui, bien sûr, Défi Service Plus donc, a été créé il y a 30 ans maintenant. On ne portait pas ce nom-là au départ, c'était Décibel. Le nom a changé en 2015. Il y a eu un rapprochement avec une autre association, Tremplin Plus, qui était très présente sur le Mantois avec un siège à Aubergenville en 2016. Et aujourd'hui, donc 30 ans, un accompagnement d'environ 300 demandeurs d'emploi par an et une équipe de salariés permanents de 8 personnes. Un sujet important que je souhaiterais rajouter, c'est que nous sommes des associations, effectivement. Mais il ne faut pas imaginer que parce que nous sommes des associations, nous sommes forcément des amateurs, je dirais. Notre association, elle compte donc 8 salariés permanents. Donc ce sont des professionnels qui ont une expérience professionnelle pour beaucoup de plusieurs années, qui sont formés, qui sont des vrais professionnels de l'insertion. Et donc venir nous voir, ce n'est pas s'adresser à des personnes qui font ça sur leur temps libre et qui n'ont pas forcément les compétences pour vous accompagner. On est des professionnels de l'insertion. On traite tous les jours avec des institutionnels comme Pôle emploi, comme le département, comme la préfecture. On est des acteurs identifiés et crédibles de l'insertion et de l'emploi. Donc effectivement, association, ça ne veut pas forcément dire que vous ne serez pas traité à votre juste valeur et convenablement accompagné, au contraire.
Alors au niveau géographique, vous officiez dans quel secteur ?
On intervient sur tout le nord des Yvelines, nord et nord-ouest des Yvelines, donc en particulier toute la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, mais également le Pays Oudanais, les portes d'Île-de-France, et des petits bouts d'autres zones. Donc globalement, pour que ce soit visuel, on va de l'est de Achères jusqu'à la fin de les Yvelines. Voilà, donc toute cette zone nord avec un siège à Chanteloup-les-Vignes, mais une intervention donc sur toute cette zone géographique.
Alors, on va parler de votre travail d'insertion, qui est vraiment votre mission principale. C'est un long chemin finalement. Détaillez-nous les étapes que vous suivez pour aider les personnes en demande d'emploi.
La première étape, c'est l'identification du public. Donc, il faut trouver, attirer et identifier les personnes qui correspondent aux critères de l'association, puisqu'il y a des critères qui sont posés par la loi. On est très encadré, donc on travaille en réseau avec tous les acteurs de l'emploi, Pôle emploi, les missions locales, les acteurs sociaux, donc les assistants sociaux, les centres d'hébergement, mais également tous ceux qui travaillent pour la jeunesse, les points information jeunesse, les bureaux information jeunesse, les médiateurs, parfois des centres sportifs, vraiment tout type d'acteurs qui vont nous orienter des personnes qui ont besoin d'aide pour entrer dans le monde du travail, parce qu'ils ont des freins. Ces freins peuvent être multiples, hein. Ça peut être parce qu'ils viennent d'un quartier avec des parents qui n'ont pas un super réseau et donc commencer dans la vie quand on ne sait pas à qui s'adresser, c'est pas facile. Parce que madame a eu des enfants, s'est arrêtée de travailler pour les élever et puis avec un trou de 7 ans sur son CV, elle n'arrive pas à rebondir. Parce que monsieur a 50 ans, il a été licencié pour X raisons et tout le monde le trouve trop vieux, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc on va attirer un petit peu toutes ces candidatures et nous on va avoir d'abord une phase de sélection qui va consister à identifier les personnes qui sont vraiment dans une démarche d'insertion. C'est-à-dire que nous, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre rôle de faire semblant. Ce qu'on veut, c'est que les personnes qui viennent nous voir, elles sont vraiment mobilisées dans leur démarche. Et oui, je veux m'insérer professionnellement et je veux me donner les moyens. Et c'est vraiment notre critère numéro un, voire exclusif, de sélection. Une fois qu'on a identifié ces personnes, on va mettre en place un accompagnement socio-professionnel réalisé par un chargé d'insertion professionnelle qui va les aider à travailler le projet. Donc on est vraiment dans la recherche d'une sorte de vocation. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour se dire il faut un job et un salaire à la fin du mois. Ça ne dure qu'un temps. jamais viable sur le long terme. Et nous, on est sur du long terme. Donc, on va travailler sur qu'est-ce qui vous motive vraiment, quel métier va vous donner envie de vous lever le matin pour les 10 prochaines années. Donc, c'est un travail qui est long, qui est réalisé donc par ce chargé d'insertion. Et en parallèle de ce travail d'insertion, on va proposer des missions de travail. Donc, du job alimentaire qui peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines, qui va permettre à la personne de gagner un peu d'argent puisqu'il est payé au SMIC horaire en fonction du nombre d'heures de travail réalisées. Et aussi de développer des compétences, d'ajouter des lignes sur un CV, de découvrir des métiers. Et ça permet de travailler ces deux aspects en parallèle. L'objectif final, c'est de trouver un emploi ou une formation qualifiante qui correspond au projet de la personne. Et là, donc, c'est le travail du chargé d'insertion, d'aider la personne à se positionner sur des offres d'emploi, sur des possibilités de formation. Et donc, nous, notre objectif, c'est que la personne sorte de l'association, comme on dit, donc, ce sont les sorties. Et donc, c'est l'obtention d'un contrat ou d'une formation.
Et du coup, pour la formation, vous avez des partenaires particuliers ?
Voilà, donc on aime les partenaires, hein, on ne peut pas faire tout ce travail tout seul. Et notre objectif, ce n'est pas de se substituer à d'autres qui font des choses bien mieux que nous. Donc pour la formation, par exemple, on va beaucoup travailler avec le GRETA, donc l'Éducation nationale, mais aussi avec des organismes comme l'AFPA, la FEC, enfin des tas d'organismes de formation pour adultes qui vont permettre de former ou de se reconvertir aussi vers différents métiers.
Et donc, en parallèle de l'accompagnement socio-professionnel, il y a donc ces missions de travail professionnalisantes qui concernent énormément de secteurs. Détaillez-nous les différentes missions.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'on fait, c'est de la mise à disposition de personnel. C'est-à-dire que on a des demandeurs d'emploi et on va proposer à des entreprises, des collectivités, dans une moindre mesure des particuliers, des coups de main sur plein de sujets. Et donc, on n'est pas bridé, ça peut être absolument tous les sujets. Donc, c'est vrai que historiquement, nos associations, parce que Défi Service Plus n'est pas la seule association comme la nôtre, il y en a 5 dans les Yvelines, on a chacune un secteur, et puis il y en a partout en France. Historiquement, on a beaucoup fait des métiers du ménage, des métiers dans le BTP, donc surtout des manœuvres, de la manutention, de la restauration collective. Donc c'est vrai que c'est une grosse partie de notre activité. Mais aujourd'hui, rien ne nous empêche de faire autre chose et de plus en plus, on a des métiers du tertiaire, donc on a des médiateurs sociaux, par exemple dans des bureaux de poste, notamment le bureau de poste de Mantes-la-Jolie au Val-Forêt, où on a un médiateur qui accueille le public. On fait beaucoup, de plus en plus, des agents d'accueil, des agents administratifs. On va avoir également beaucoup, évidemment, dans notre monde actuel, des chauffeurs, chauffeurs-livreurs, de plus en plus. Et on cherche à se diversifier, à proposer des missions de plus en plus variées pour répondre aux besoins des entreprises. Parce que ce qu'on va leur proposer, finalement, ça va être des remplacements de personnel absent, des pics d'activité, comment on peut répondre à ces pics d'activité, ou de la pré-embauche. Des entreprises qui ont envie de tester des personnes avant de les embaucher, on peut répondre à ce besoin. Et ça nous permet aussi de nous adresser à une grande part de nos demandeurs d'emploi qui vont peut-être évidemment être plus motivés par un poste de médiateur parce qu'ils s'orientent vers un poste de l'accueil du public que par un poste de manœuvre, par exemple.
Et donc, pour ces missions de travail, je pense notamment à la manutention, au BTP, au jardinage, au bricolage. Comment ils sont formés ? Ils ont fait un stage avant ? Comment ça s'est passé pour eux ?
Alors, il y a deux cas de figure. Sur certains métiers, on va les former avant de les envoyer en mission. Nous, c'est ce qu'on fait sur les métiers du nettoyage. Typiquement, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, le ménage n'est pas inné, c'est un vrai métier. Il y a des compétences, il y a des façons de faire, il y a du matériel. Donc, on va former les personnes avant qu'elles partent en mission. 2 jours de formation pour toutes les personnes avant qu'elles partent pour qu'elles aient les connaissances nécessaires pour réaliser le travail. Sur d'autres missions, on ne va pas forcément pouvoir former. Ça dépend du besoin, ça dépend du client. En tout cas, l'intervenant est encadré chez le client par le client qui va lui transmettre les informations nécessaires, le former si nécessaire. Donc, il y a ce double accompagnement où on peut nous proposer des formations dans la mesure du faisable et où l'entreprise ou la collectivité cliente va former la personne et l'intégrer dans une équipe.
D'accord. Donc, du coup, c'est finalement le second aspect que vous avez commencé à aborder. En plus de travail d'insertion des demandeurs d'emploi, il y a finalement la proposition de services à différents clients, donc que ce soit les particuliers, mais aussi les entreprises, les collectivités, les associations. Et ça, dès que quelqu'un a besoin de main d'œuvre, ça se fait rapidement?
Ça se fait très rapidement parce que un de nos objectifs, c'est la réactivité. Parce que pour réaliser notre travail d'insertion, très clairement, on a besoin de clients. C'est-à-dire que nous, notre travail d'insertion, ce n'est pas que l'accompagnement socio-professionnel, c'est vraiment l'accompagnement et les missions. Et c'est un vrai duo. Donc, on a vraiment besoin de ces missions pour faire notre travail. Donc, on a besoin de développer notre clientèle. Pour ce faire, il faut qu'on soit concurrentiel, il faut qu'on apporte une valeur ajoutée. Et une de nos valeurs ajoutées, c'est vraiment cette réactivité. Donc, on est capable, sur un besoin qu'on qualifierait de classique, c'est-à-dire des métiers qu'on a l'habitude d'aborder, ce qui va être voilà, manutention, manœuvre, ménage, on a une réactivité de 24 heures. Alors, si on nous appelle pour un besoin le lendemain, généralement, on est capable de trouver quelqu'un très rapidement. Sur des zones accessibles, voilà, que ce soit Mantes-la-Jolie, c'est très facile, les Mureaux, c'est très facile. Bien sûr, dans certaines zones rurales, ça peut être un peu plus long. Mais voilà. On essaye d'être le plus réactif possible en fonction du profil demandé.
Et donc, à la suite de ces missions effectuées par les jeunes, ça aboutit ensuite à une embauche, pourquoi pas?
Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer le plus possible en ce moment, c'est vraiment de mettre en avant cet aspect pré-embauche. D'aller voir des entreprises, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le problème de l'entreprise, c'est le recrutement. On n'est pas aveugle, on lit tous la presse, on écoute tous les médias. Et les entreprises ont du mal aujourd'hui à comprendre les compétences des demandeurs d'emploi. Parce que les demandeurs d'emploi, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, on a une réelle inadéquation entre l'attente de l'employeur en termes de CV, ce qu'il veut voir apparaître sur le CV, et les compétences qu'ont les demandeurs d'emploi qui sont en face. Nous, on va être cet intermédiaire. Les demandeurs d'emploi ont envie de travailler. Ceux qui viennent nous voir, ils sont pas obligés de le faire. On n'est pas Pôle emploi, ils pointent pas, il n'y a pas une question de droit derrière. Donc, s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils veulent travailler. Donc, nous, on peut être cet intermédiaire et proposer à l'entreprise de réfléchir autrement et pas de se dire « je veux un CV avec telle ligne, telle ligne, telle ligne », mais se dire quelles sont les compétences que vous recherchez. Et nous, on va vous proposer des personnes qui ont ces compétences. Vous allez les tester. Pendant une journée, une semaine, un mois, il fait l'affaire, vous l'embauchez et tout le monde est ravi. La personne, elle a développé des compétences, elle a touché un salaire pendant cette période et si elle est embauchée, c'est notre objectif. Donc, ça se fait de plus en plus. Après, on a néanmoins beaucoup de clients qui ne vont pas embaucher la personne derrière et ce n'est pas grave, ce n'est pas une obligation. Nous, on va trouver d'autres solutions derrière pour cette personne. Mais de plus en plus, on travaille comme ça avec beaucoup d'entreprises du secteur, aussi avec des collectivités. Ça, c'est important pour les mairies. Je m'adresse à toutes les personnes dans les mairies qui peut-être nous écoutent. On sait que les processus de recrutement dans les mairies sont très longs, il y a une partie administrative très lourde. On peut vraiment lever les freins sur toutes les appréhensions qu'on peut avoir sur une période d'essai. Vous prenez la personne, vous la testez un mois, deux mois, vous vous assurez que c'est la bonne personne. Ça vous laisse le temps de faire vos démarches administratives. Bon, bien sûr, il y a le coût parce qu'on va vous facturer la mission. Je ne cache pas qu'il y a un surcoût, bien sûr. Mais vous, ça vous sécurise et ça vous permet de ne pas mettre en place des démarches administratives très lourdes pour quelqu'un qui ne ferait pas l'affaire finalement à la fin. Et donc, on travaille avec pas mal de mairies, de plus en plus de mairies, sur ce sujet de la pré-embauche et ça fonctionne très bien.
Je reviens sur les formations professionnalisantes. Il y a des sujets qui sont importants. On parle beaucoup, évidemment, des compétences professionnelles. Ça, on a bien compris que vous faisiez en sorte que les demandeurs d'emploi obtiennent ces compétences. Mais il y a aussi d'autres choses comme les comportements, les savoir-être, mais aussi pour certains, la maîtrise du français.
Alors, les comportements, les savoir-être professionnels, c'est un des gros freins sur lesquels on travaille. Qui est lié souvent à une inexpérience. Donc, on a beaucoup de formations d'accompagnement sur ces sujets. Au démarrage, on va, sur un demandeur d'emploi, généralement, on va lui proposer, dans un premier temps, des petites missions de quelques heures ou de quelques jours pour tester la personne, pour prendre aussi le temps de lui expliquer, bien, quand il n'a jamais travaillé, des questions qui peuvent paraître évidentes pour ceux qui ont l'habitude du travail, mais qui ne le sont pas forcément, de ponctualité, de régularité, de tenue vestimentaire. Il y a des choses à faire souvent sur ce sujet. Nous, on va beaucoup les briefer avant de les envoyer en mission. Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Des choses aussi simples que prévenir si on est en retard. Oui, mais si on nous le dit pas, on n'y pense pas forcément. Voilà. Donc, il y a tout ce travail. Et on peut mettre en place des formations sur les savoir-être professionnels qui existent avec des partenaires. Donc ça, c'est une première chose. Sur la question du français, c'est une question très différente. Donc effectivement, on s'adresse aussi à des populations d'origine étrangère qui peuvent être réfugiées ou qui peuvent ou pas. Donc ce qu'on appelle le public allophone, donc qui ne parle pas français. Et là, pour le coup, on n'apprend pas le français en 2 semaines, et même en 2 mois, et même en 2 ans. On a mis en place beaucoup de formations autour du français qui sont dispensées dans nos locaux. Donc il y a différents formats. Il y a un format intensif qui a lieu 4 fois par an, 1 mois de formation intensive de français, 70 heures de formation, pour donner vraiment les bases de français pour que la personne qui parte en mission sache au moins se présenter, dire qui elle est, merci, bonjour, enfin les mots de politesse et ne pas partir de zéro. On a des formats le soir et le samedi matin pour que les personnes puissent travailler et avoir accès aux cours de français et pas avoir à choisir entre les deux. Donc ça existe également. Voilà, on travaille sur pas mal de ces sujets pour permettre à ces publics aussi d'accéder à l'emploi, parce qu'il faut bien se le dire, les entreprises et les collectivités sont très fermées sur cette question pour plein de raisons qu'on peut comprendre, hein, mais quelqu'un qui ne parle pas français, c'est très très difficile de trouver un emploi.
La dernière étape du travail d'insertion, c'est l'accompagnement vers la recherche d'un emploi. Donc ça signifie l'aide au CV, vous en avez un peu parlé, l'aide aussi à l'écriture de la lettre de motivation par le chargé d'insertion professionnelle de Défi Service Plus. Sur quoi vous insistez pour que ça marche ?
Les lettres de motivation, c'est vraiment... Alors, je suis une ancienne DRH, donc c'est vraiment un sujet... C'est vraiment un sujet glissant, la lettre de motivation. On sait que très peu de recruteurs les lisent. Par contre, ceux qui les lisent, ils y tiennent beaucoup. Donc, c'est vraiment un sujet compliqué. Donc, nous, on va vraiment mettre en place ce qu'on met en avant dans les lettres de motivation. C'est vraiment le projet. Le projet professionnel. Montrer que c'est un projet qui est réfléchi, que la personne ne vient pas là par hasard, qu'elle a pu tester son souhait d'aller dans ce métier. C'est vrai que nous, ce qu'on met beaucoup en place, c'est des stages d'immersion. À une personne qui dit qu'elle veut devenir, par exemple, ambulancier, on va mettre en place un stage d'observation dans une entreprise gratuit pendant quelques jours, mais pour que la personne puisse voir ce qu'est vraiment le métier, tester sa motivation et puisse dire pourquoi ce métier m'intéresse, plutôt que d'être dans des banalités, dans la fameuse lettre de motivation, j'ai toujours rêvé de venir chez vous, recrutez-moi, ça va pas marcher comme ça.
Et puis aussi l'entretien. Les simulations d'entretien, vous en faites ?
Tout à fait, simulation d'entretien, préparation aux entretiens, bien expliquer ce qu'il faut mettre en avant, les qualités à mettre en avant, ce qu'attend un recruteur de ces entretiens. Donc oui, bien sûr, il y a toute cette préparation autour de l'entretien qui est difficile parce qu'il y a plein de formes d'entretiens. Il y a des entretiens collectifs, des entretiens individuels. On va aussi beaucoup orienter les personnes vers d'autres types de recrutement et notamment c'est l'occasion de parler de la méthode de recrutement par simulation, la MRS, qui est une méthode mise en place par Pôle emploi et sur notre secteur c'est Pôle emploi de Poissy qui le met en place pour tout le nord des Yvelines, hein, y compris le Mantois, et qui permet à des employeurs justement de recruter sous forme de ce qu'on appelait avant les assessment centers, donc de mettre la personne en situation. Voilà, se dire aujourd'hui je cherche un caissier par exemple, c'est quoi le métier de caissier concrètement en termes de gestes, en termes d'aptitudes, et on va mettre en place une simulation de ce métier et les candidats vont réaliser des exercices pour montrer leurs aptitudes au métier sans que le CV soit pris en compte. Et donc ça c'est évidemment très intéressant pour notre public et puis pour le public en général. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus parce qu'il y a plein de métiers, notamment dans le Mantois, il y a un fabricant d'instruments de musique qui recherche tout le temps des personnes qui ont des aptitudes vraiment manuelles, qui ne se lisent pas sur un CV. Ben ça, la méthode de recrutement par simulation, c'est formidable pour trouver ces profils-là.
Un mot sur le numérique. Vous aidez les demandeurs d'emploi dans leur démarche sur Internet.
Le numérique est un sujet sur lequel on se trompe beaucoup parce qu'on a tendance à se dire « les jeunes, c'est bon, ils maîtrisent, c'est plutôt les personnes d'un certain âge qui… » Alors, pas du tout. La maîtrise du numérique, elle est très inégale, quel que soit l'âge des personnes. Et on a des jeunes, effectivement, qui ont 17, 18, 19 ans, qui sont sur Snap, qui sont sur TikTok, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand il s'agit… de s'inscrire à Pôle emploi, de réaliser un CV, d'envoyer une candidature, c'est la catastrophe. Ils ne savent pas faire, ils n'ont pas les codes, on ne leur a pas appris. Donc oui, il y a un accompagnement numérique qu'on propose, notre chargé d'insertion le propose, on a des bornes numériques et des ordinateurs qui sont disponibles pour pouvoir réaliser la recherche, parce qu'il y a aussi ne pas savoir et ne pas avoir accès aux outils. Donc on donne accès à ces outils pour permettre de faire cette recherche d'emploi, on leur montre comment on postule, on les aide pour le faire, parce que très honnêtement, quand on cherche un poste de jardinier, ne pas maîtriser le fait de candidater en ligne, ce n'est pas grave. On va les aider à dépasser ce frein-là pour qu'ils puissent accéder à leur emploi.
Alors Défi Service Plus se déplace également auprès des populations grâce au Job Truck. Alors parlez-nous de ce dispositif et à quoi sert-il ?
Un des freins à l'emploi, c'est la mobilité. Clairement, quand on a un permis et une voiture, on va avoir beaucoup moins de problèmes pour trouver un emploi que quand on est dépendant des transports en commun et encore plus quand on habite en zone rurale. Fort de ce constat, avec deux autres associations des Yvelines que sont CBL Réagir qui intervient autour de la Salle-Saint-Cloud, Saint-Cyr, l'école Plaisir et Chantier Yvelines qui est dans le sud des Yvelines, autour de Versailles, Trappes et Rambouillet. On a mis en place une unité mobile qu'on a appelée le Job Truck qui intervient depuis le mois de mai sur les zones rurales des Yvelines pour aller auprès des populations. Donc on identifie des bassins d'emploi et où on va trouver des demandeurs d'emploi qui ont besoin d'accompagnement. On va contacter les mairies et proposer des permanences dans ces mairies. Donc notre Job Truck qui est animé par Emma arrive sur place. Et donc, accueille le public pour les identifier leurs besoins, identifier leurs projets professionnels et les mettre en relation avec des employeurs dans une distance raisonnable autour de leur lieu d'habitation. Et donc, ces employeurs, toujours pareil, entreprises, collectivités, particuliers. Et donc, on va faire ce lien et permettre du coup à cette personne qui habite peut-être dans un village de 500, 600 personnes, très peu desservi par les transports en commun, de ne pas avoir à aller dans la grande ville, à Mantes ou ailleurs, ou à Rambouillet, trouver le bus qui va à la bonne heure pour aller à Pôle emploi. On enlève tous ces freins, on va directement vers le public et on arrive à créer des opportunités et à aider ces personnes.
Merci à vous, Aude Amarurtu, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invité.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez l'écouter le samedi à 15h et le jeudi à 19h30. Et vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.